Quand un gigantesque incendie de forêt se déclare, tu vois, avec des flammes de genre 30 mètres de haut qui dévorent absolument tout sur leur passage, on ne s'attend pas vraiment à voir arriver quelqu'un en trottinette avec un petit arrosoir en plastique.
Ah bah non, c'est clair.
En fait, pour régler le problème face à une menace aussi écrasante, on veut un déploiement de forces brutes.
Ouais, massive, quoi.
Voilà, des hélicoptères, des bombardiers d'eau. La logique humaine dicte que la seule façon de contrer une force gigantesque, c'est avec une force encore plus colossale.
C'est l'instinct de survie le plus basique, en fait. C'est presque mathématique. On veut une certitude visible, palpable. Face au danger, notre cerveau réclame une puissance écrasante pour se rassurer.
Exactement. Et pourtant, bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie, où on va voir cette logique voler complètement en éclats.
Ça va être intéressant.
Aujourd'hui, on plonge dans les notes de la sixième session du docteur John Oswalt. Ça porte sur les chapitres 9 à 12 du livre d'Ésaïe. Et la mission de notre analyse, c'est de comprendre ce scénario qui ressemble littéralement à cette image de l'arrosoir en plastique face à l'Apocalypse.
C'est une super image pour le coup.
Pour poser le décor rapidement, on est dans le royaume de Juda, dans l'Antiquité. Le roi Achaz fait face à la pire menace existentielle imaginable, l'Empire assyrien.
Ah oui, la grande terreur de l'époque.
C'est ça. Et plutôt que de faire confiance aux instructions divines, Achaz cède à la panique totale. Il choisit la sécurité politique et s'allie carrément avec cette superpuissance brutale. Le résultat? Une obscurité totale, un désespoir accablant qui s'abat sur tout le pays.
Et ce contexte de ténèbres absolues, c'est fondamental pour comprendre la suite des notes Oswalt. Parce que l'Assyrie de cette époque, c'est pas un partenaire diplomatique raisonnable.
Non, pas du tout.
C'est une machine de guerre d'une cruauté terrifiante, un prédateur impitoyable. Le refus d'Achaz de s'en remettre à une réalité supérieure plonge vraiment sa nation dans l'angoisse. Mais, et c'est le point de bascule de toute l'analyse dans cette vision théologique, le dernier mot, c'est jamais le jugement.
C'est toujours l'espoir.
Exactement. L'obscurité peut être la conséquence inévitable des choix humains, mais l'intention finale, la destination ultime de Dieu, c'est invariablement l'espoir.
C'est ce qui rend ce texte si pertinent aujourd'hui, même s'il est millénaire. On a l'impression d'observer la nature humaine en temps réel, quoi.
Totalement.
Ok, décortiquons tout ça. La grande question, c'est comment on passe de ce cauchemar géopolitique à la lumière? En lisant les notes, j'ai été frappé par le point de départ de cette fameuse lumière.
Ah oui, la localisation.
Ouais, elle s'allume pas dans la capitale bien protégée, au palais royal. Elle s'allume géographiquement au pire endroit possible.
Oswald appelle ça la géographie de la grâce, en quelque sorte. Le texte d'Ésaïe pointe spécifiquement vers les terres de Zabulon et de Nephtali, tout au nord.
Pourquoi ces régions-là, en fait?
Parce que, historiquement, ce sont les toutes premières à avoir subi l'invasion de l'armée assyrienne. C'est la ligne de front qui a craqué en premier, là où le carnage a commencé, là où les populations ont été déportées en premier.
Ah, d'accord, le point d'impact initial.
C'est ça. Et pourtant, la promesse affirme que cette même région, qui est appelée la Galilée des nations, sera couverte de gloire. La source note d'ailleurs avec beaucoup de fascination que c'est précisément dans cette région dévastée que se déroulera des siècles plus tard l'essentiel du ministère de Jésus.
Oh waouh, la lumière divine choisit de percer exactement là où les ténèbres semblaient avoir gagné.
C'est une magnifique inversion des choses.
Et la promesse qui accompagne cette lumière au nord, c'est carrément la fin absolue de la guerre, hein. Les bottes des soldats, les manteaux roulés dans le sang, tout ça, poubelle, jeté au feu.
Fini, ouais.
Et c'est là qu'on en revient à mon arrosoir en plastique. Le monde entier hurle de terreur face à la machine assyrienne, et on s'attend à ce que le ciel s'ouvre pour laisser descendre, je sais pas, un super guerrier.
Un genre d'incroyable Hulk cosmique.
Exactement. Un super-homme providentiel pour écraser les ennemis. Mais la solution proposée, c'est un enfant. Le texte tourne en boucle sur ce motif des enfants.
Oui, le contraste est vraiment saisissant, et c'est tout à fait voulu par l'auteur. Le prophète Ésaïe utilise d'abord ses propres enfants comme des messages vivants, tu vois?
Oui, il y a des noms assez spécifiques.
Voilà, il y a Cher et Yashoub, dont le nom signifie car reste reviendra. Ensuite, il y a Maher Shalal Ashbaz, un nom redoutable qui annonce un pillage imminent. Il y a aussi la mention d'Emmanuel, Dieu avec nous.
Tout culmine avec cette déclaration célèbre du chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
C'est ça.
Mais franchement, c'est comme envoyer un ours en peluche pour résoudre une crise nucléaire. Je dois avouer qu'en lisant cela, j'ai eu la même réaction que n'importe quel stratège militaire. Je me suis dit, c'est une blague.
C'est très contre-intuitif.
Et d'ailleurs, certains historiens ont essayé de rationaliser ce truc. J'ai vu qu'il existait une théorie suggérant que cet enfant, c'était simplement le roi Ézéchias, le fils d'Achaz, qui a succédé à son père et a été, bon, un bien meilleur souverain.
Ouais, c'est une théorie courante.
Mais Oswald repousse cette idée, non ?
Il la rejette catégoriquement. Pour une raison très simple, en fait. Le fardeau posé sur les épaules de cet enfant est beaucoup trop lourd pour un simple humain.
Ah oui, les titres qu'on lui donne.
Le texte lui donne des titres stupéfiants.
Ouais, j'ai la liste sous les yeux. Conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Même pour Ézéchias, qui a fait de bonnes réformes, appeler un monarque humain Dieu puissant ou Père éternel, ça colle pas du tout au profil.
Non, c'est impensable dans le cadre de la théologie de l'époque. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces titres démontrent que la solution au chaos mondial ne peut pas venir d'un énième dirigeant politique.
Aussi vertueux soit-il, ouais.
Et le mécanisme derrière tout ça est crucial. Pourquoi un enfant ? Parce que ça démontre que la faiblesse divine, entre guillemets, est infiniment plus forte que la force humaine. C'est le rejet ultime de nos méthodes basées sur la force brute.
C'est super intéressant.
Et puis, il faut se poser la question, qu'a fait le peuple pour mériter cette lumière ? Qu'ont-ils accompli pour gagner cet enfant miraculeux ?
Absolument rien du tout, ils étaient en pleine rébellion.
Exactement, et c'est la définition pure de la grâce dans l'analyse de Swalt. La grâce ne dépend d'aucune action humaine. L'intervention divine est une effraction totalement imméritée de la lumière dans des ténèbres que l'humanité a elle-même créées.
C'est une perspective vraiment apaisante, l'espoir inconditionnel. Mais, et c'est là que la structure du texte m'a donné un peu le vertige.
Ah ouais ?
À peine a-t-on digéré cette magnifique promesse de paix, qu'Ésaïe nous jette un seau d'eau glacée au visage.
C'est vrai, le ton change vite.
Entre la fin du chapitre 9 et le début du chapitre 10, le ton change radicalement. On passe de la berceuse pacifique au grondement du tonnerre. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ?
C'est un retour brutal à la réalité. Oswald appelle ça « affronter le vrai problème ». Ésaïe déploie ici un poème incroyablement sombre, très bien structuré en 4 strophes.
Et avec un refrain, non ?
Oui, et ce qui donne des frissons, c'est que chaque strophe se termine par le même refrain implacable, répété 4 fois. Malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue.
Les notes précisent un détail super fascinant sur cette main étendue. L'hébreu ancien n'a apparemment pas de mot spécifique pour dire point. Mais l'image que le lecteur d'origine comprenait, c'est bien ça. Un point divin levé, prêt à s'abattre.
Une colère persistante.
Mais pourquoi ce point reste-t-il levé ? Oswald décortique ce poème un peu comme l'autopsie d'une société en train de s'effondrer. Il identifie 4 péchés majeurs.
Le premier, c'est l'arrogance pure, n'est-ce pas ?
C'est ça. Le peuple déclare « Les briques sont tombées, nous rebâtirons en pierre de taille, les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. »
Et c'est là que l'analyse d'Oswald devient particulièrement révélatrice de la nature humaine, peu importe l'époque en fait.
Ouais.
Mais avant d'entrer dans les détails de la source, je tiens à préciser de manière très formelle pour ceux qui nous écoutent que nous ne prenons absolument aucun parti politique ici.
Tout à fait, on reste strictement neutre.
On ne fait qu'exposer la comparaison faite dans le matériel d'origine sans valider ou critiquer un camp. Oswald utilise des exemples modernes pour illustrer cette arrogance. Il observe les discours politiques américains qui ont suivi les tragédies du 11 septembre.
Oui, il mentionne des politiciens comme Tom Daschle ou John Edwards.
C'est ça. Ils ont publiquement cité ce verset exact d'Ésaïe sur les briques tombées et la reconstruction, hors de son contexte originel.
C'est quand même incroyable. Ils ont utilisé ce verset comme un cri de ralliement, une démonstration de résilience, genre « vous nous avez frappés, mais on va revenir plus fort ».
Oui, comme un signe de force.
Alors que, dans le texte d'origine d'Ésaïe, c'est l'illustration même de la rébellion contre Dieu. C'est le peuple qui dit « Peu importe ce qui nous arrive, on n'a pas besoin de faire d'introspection, on réparera tout nous-mêmes avec de meilleurs matériaux. » C'est vraiment le sommet de l'aveuglement.
C'est exactement le paradoxe que Swalt met en lumière. Et cela nous mène directement au deuxième péché de la liste.
L'élévation des leaders humains.
Et voilà. Quand une société est aveuglée par sa propre arrogance et refuse de regarder vers le haut, vers les instructions divines, elle finit toujours par regarder vers des sauveurs humains, des faux enseignants, des politiciens.
Encore une fois, la source fait un parallèle avec la politique moderne.
Oui, et je rappelle encore à l'auditoire notre règle stricte d'impartialité. Oswald prend un exemple très global en observant la rhétorique des élections américaines de 2012, où chaque camp, démocrate comme républicain, présentait son candidat comme la solution ultime.
on ne fait que relater comment les humains répètent l'histoire en se fiant aux dirigeants plutôt qu'aux divins.
Exactement. Ce n'est pas une critique d'un parti, mais l'illustration d'un mécanisme humain intemporel. On confie le rôle de Dieu à des hommes et on est invariablement déçu.
Et ce mécanisme de déception engendre les deux derniers péchés du poème. Une fois qu'on a l'arrogance, puis les mauvais leaders, la société se fissure de l'intérieur.
La violence entre en jeu.
Le troisième point, c'est la violence et la cruauté. Ésaïe décrit les tribus de Manassé et d'Éphraïm en train de se dévorer l'une l'autre avant de s'en prendre ensemble à Juda. Pour préciser, Manassé et Éphraïm, ce sont deux tribus issues du même ancêtre, Joseph.
Ce sont des frères, en fait.
C'est la définition tragique de la guerre civile.
Le tissu social est complètement déchiré. L'arrogance mène à la division mène au fratricide.
Et le quatrième point coule de source, l'oppression et l'injustice systémique. Les veuves et les orphelins sont dépouillés.
C'est la ruine morale.
Mais en observant cette cascade de catastrophes, ça m'a fait réaliser un truc. Le texte semble s'en prendre aux alliances politiques, mais l'enjeu réel n'est-il pas profondément intime? Est-ce qu'Ésaïe ne dit pas que le vrai champ de bataille n'est pas militaire, mais théologique?
Tu touches du doigt le cœur du message. L'obsession d'Israël, c'est de savoir comment survivre à la menace géopolitique, la Syrie. Mais pour la perspective prophétique, l'erreur fondamentale, c'est de craindre la Syrie au lieu de faire face à la réalité divine.
Quelle est votre posture morale, en somme?
C'est ça. Allez-vous pratiquer la justice, même quand la panique règne?
Ce qui amène un contraste assez fascinant quand on arrive au chapitre 10 dans ce qu'on pourrait appeler la géopolitique divine.
J'aime bien ce terme.
D'un côté, on a Israël qui tremble devant la Syrie. De l'autre, on a la Syrie elle-même qui se prend pour le centre de l'univers. Les notes décrivent l'attitude du roi d'Assyrie avec une image très évocatrice.
Ah oui, l'histoire du nid.
Il s'imagine piller le monde entier avec la même facilité qu'un homme qui vole des œufs dans un nid d'oiseaux abandonné. Personne ne bat des ailes, personne ne piaille. Pour lui, conquérir le monde est un jeu d'enfant.
La Syrie est ivre de son propre pouvoir, c'est sûr. Mais la révélation fracassante du chapitre 10, c'est la façon dont Dieu perçoit cette superpuissance.
C'est très différent.
Totalement. Du point de vue divin, la Syrie, bien qu'arrogante, n'est absolument rien d'autre qu'un instrument. Elle est littéralement qualifiée de verge de ma colère ou de hache.
C'est marrant, j'aime beaucoup visualiser ça avec une métaphore plus moderne.
Laquelle ?
La Syrie, c'est un peu comme une énorme boule de démolition sur un chantier. Elle fracasse des murs en béton, elle fait trembler le sol, et elle se dit « Regardez ma puissance, je détruis tout !»
Ouais, je vois l'idée.
Mais elle est complètement ignorante du fait qu'il y a un opérateur de grue qui tire les manettes. La boule de démolition ne décide de rien.
C'est une excellente métaphore. Et d'ailleurs, Ésaïe file sa propre allégorie, celle des arbres. Dans l'imagerie biblique de ce livre, une forêt dense représente souvent l'arrogance et l'accumulation du pouvoir temporel.
Donc la Syrie et cette immense forêt.
Exactement. Et la promesse divine est radicale. Dieu promet d'abattre cette forêt assyrienne jusqu'à ce qu'il reste si peu d'arbres qu'un enfant, encore un enfant d'ailleurs, pourrait les compter un par un.
Et ça s'est passé.
Historiquement, Oswald rappelle que l'empire assyrien, à son apogée terrifiant, va s'effondrer et disparaître en l'espace de seulement 40 ans, vers 610 avant notre ère.
Un battement de cils à l'échelle de l'histoire. Mais attends, il y a un dilemme philosophique majeur qui émerge ici.
Lequel ?
Si la Syrie n'est qu'une hache, doravin de Dieu, est-ce que c'est juste de la punir ensuite ? N'est-ce pas un peu cynique de la part du Créateur ?
C'est une question très profonde. La source établit d'ailleurs un parallèle controversé ici, et encore une fois, je précise formellement à l'audience qu'il s'agit uniquement d'une retranscription du dilemme philosophique de la source.
Oui, on ne valide aucune croyance politique ou religieuse.
Oswald évoque le débat théologique pour savoir si Dieu utilise aujourd'hui une religion perçue comme hostile. Il mentionne l'islam vis-à-vis de l'Amérique post-11 septembre pour châtier un groupe. Il compare ça à l'histoire d'Abacuc face aux Babyloniens.
Dieu peut-il utiliser un groupe pire pour corriger un groupe meilleur? C'est ça la question de fond.
C'est ça. Ça soulève une question importante. Le prophète Abacuc crie au scandale face à cette idée. Comment un Dieu peut-il se servir d'un outil aussi corrompu?
Et donc, pour en revenir à mon objection philosophique, on ne punit pas un marteau pour avoir planté un clou, si.
L'objection est tout à fait naturelle, mais la clé, c'est la distinction entre l'outil mécanique et l'acteur humain doté de libre arbitre. La Syrie n'est pas un morceau de métal passif.
D'accord.
Quand elle détruit, elle ne le fait pas par obéissance à Dieu. Elle le fait par sadisme, par ego, par soif de sang. Oswald explique que la justice universelle exige que cette arrogance soit jugée.
Ah, je comprends. L'acteur reste coupable de sa propre cruauté.
Exactement. Il faut mettre en lumière la distinction entre l'apparence de la réalité, c'est-à-dire l'armée ennemie massive, et la réalité véritable, le dieu de l'histoire qui trace une ligne rouge.
Et cette ligne rouge donne lieu à l'un des passages les plus graphiques quand l'auteur décrit la marche de l'armée ennemie sur Jérusalem.
Ah oui, la fameuse marche.
Ésaïe dresse la liste des villes qui tombent. Imagine être un habitant de Jérusalem à ce moment-là. Tu entends les rapports arriver. Ils sont à 15 km, ils sont à 10, ils sont à 5. La terreur monte.
La panique totale.
Et finalement, l'ennemi s'arrête à Nob. C'est juste à côté, ça surplombe Sion. L'ennemi secoue le poing vers la ville. Et là ?
Et là, la forêt tombe. D'un seul coup divin, Dieu tranche les branches de la menace. L'ennemi est foudroyé.
C'est vertigineux. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avec le chapitre 11.
Oui, le paysage après la bataille.
Une fois la grande forêt de l'arrogance assyrienne abattue par la hache divine, qu'est-ce qu'il reste sur la terre dévastée ? Un minuscule rejeton.
Le rejeton de la souche d'Isaïe.
C'est ça. Un petit bout de verdure vulnérable qu'il suffirait d'écraser pour le tuer. Mais j'ai une question pointue là-dessus. Pourquoi parler de la souche d'Isaïe, qui n'était qu'un modeste fermier, le père de David, plutôt que de la glorieuse lignée du roi David lui-même ?
C'est vrai que c'est surprenant.
Est-ce que c'est une claque monumentale à l'ego de la royauté actuelle pour leur dire que la solution ne viendra pas de leur statut privilégié ?
Si nous lions cela à une vision plus globale, c'est exactement ça. Le prophète dépouille le Messie de tout ce bagage de domination humaine, de la cour et des couronnes. Il retourne à la pure humilité.
Un leadership complètement nouveau.
Ce Messie ne juge pas selon l'apparence ou les ouï-dire, car il est rempli de l'esprit. Et ses armes sont fascinantes. Il frappe la terre avec la verge de sa bouche, le pouvoir de la parole.
Comme repris dans l'Apocalypse plus tard.
Oui, pas avec une épée chirurgique, ce qui amène ce royaume pacifique incroyable, le loup avec l'agneau.
Ah oui. Les notes reprennent d'ailleurs une citation de C.S. Lewis là-dessus, c'est assez drôle. Il dit que si c'était littéral, le lion aurait sérieusement besoin de soins dentaires pour manger de l'herbe.
Oui, c'est une métaphore puissante pour illustrer l'absence totale de conflit. Et ce Messie devient un étendard, un drapeau qui rallie les nations. Il y a même cette idée d'une autoroute depuis l'Assyrie pour le retour des survivants.
Un drapeau de ralliement.
Ce qui offre un contraste fascinant. Au chapitre 5, Dieu lève un drapeau pour appeler les nations à détruire, mais au chapitre 11, le drapeau appelle toutes les nations à être restaurées.
Face à ce récit de destruction, de survie et d'espoir inattendu, quelle est la réponse humaine logique ?
Le chant de confiance, au chapitre 12.
C'est ça. Le peuple puise joyeusement au puits du salut. C'est une référence au chant de Moïse.
Et c'est là que l'expert, le docteur Oswalt, souligne une redéfinition biblique du mot « réconfort ».
Ah oui, très important.
Contrairement à l'idée moderne d'un sentiment doux et pelucheux, tu sais, le cocooning, le réconfort ici signifie « mettre de l'acier dans la colonne vertébrale ».
C'est le courage de faire confiance.
Mettre de l'acier dans la colonne vertébrale, j'adore cette image.
Et ça s'articule autour du concept du saint d'Israël. Le grand paradoxe entre celui qui est au-dessus de tout, la transcendance, et celui qui se donne intimement à ce petit peuple.
L'immanence pure, oui.
Pour résumer cette inversion incroyable des valeurs qu'on vient d'observer, j'aimerais laisser l'auditoire avec une réflexion finale.
Je t'écoute.
Si le véritable réconfort n'est pas une couverture chaude pour fuir la réalité, mais de l'acier dans notre colonne vertébrale face à un univers chaotique, ben on peut se demander comment le simple fait d'appliquer ce cadre mental antique pourrait changer radicalement notre façon d'affronter les aciéries modernes de notre société.
C'est une super perspective.
Que ce soit l'angoisse de l'avenir ou la surcharge d'informations. Et si la réponse à nos peurs les plus massives restait aujourd'hui encore aussi subtile et inattendue qu'une simple pousse verte sur une souche brûlée ?
Ça laisse vraiment de quoi réfléchir pour ceux qui nous écoutent.
C'est clair. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans les textes.